scène sur ce que je vis, parce que je vois le monde comme un navire, mais je crois que cette vie n'est qu'un rallye. Donc comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami? Mon ami. Parce que je vois le monde comme un navire, mais je crois que cette vie n'est qu'un rallye. Donc comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami? J'écris, j'ai le cœur lourd, comme si je rentrais du Nouveau Mexique, ou que je rêvais d'être un Mexis. Le rêve, c'est juste de rendre à ma mère tout ce qu'elle a investi sur moi, et je le ferai sûrement. Pour l'instant, je tape moi, mon sort, mon sur moi, c'est surfait d'être heureux, c'est sur fond de jazz que je rappe. C'est tout ce que je sais faire de mieux, c'est tout ce qui fait que moi, c'est moi, et que je serai jamais eux, et que je serai jamais de ceux qui soutiendront les trous du cul en costard du gouvernement. Je peux pas prendre le trône, je gouverne même pas mes propres pensées. J'avais trop mal au cœur, donc un jour j'ai appris à chanter. Je voulais juste pas qu'ils souffrent, donc moi j'ai cru que je pouvais les changer, mais ils voulaient pas changer. Maintenant je m'en bats les couilles, c'est mon entourage que j'ai changé. Depuis je fais que de me demander comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami. Et je bloquerai ton numéro, et je casserai ma puce, et je partirai loin, et je regarderai vers le haut, et je verrai que rien ne comprend ma douleur, le poids de tous mes mots. Je veux faire des chansons joyeuses, mais je ne peux pas. C'est ma souffrance sur un tel tempo, ne pas tasser mon cœur dans un tête de bœuf. Je veux partir là où personne ne me connaît, rêver de nous, rêver de penser sans pleurer, rêver d'un monde où mes refrains sont pleins de soleil. Je suis une étoile qui s'est perdue dans le ciel. Depuis je fais que de me demander comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami.
Je ne vois aucun rappeur comme moi à la télévision. Je pleure derrière ma visière, regarde maman ton visière. Si je dois rappeler sur tonnes de larmes, je les utilise comme tonnes de balles sans poser trop de questions. Ils aiment pas trop les gens comme moi, mais m'écoutent dans le casque audio. Regarde maman, c'est odieux. Tant pis si je n'ai que des larmes à donner à mes auditeurs. Je crois que je connais ma mission, donc je poserai plus la question. Comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami?
Et je bloquerai ton numéro, et je casserai ma puce, et je partirai loin, et je regarderai vers le haut, et je verrai que rien ne comprend ma douleur, le poids de tous mes mots. Je veux faire des chansons joyeuses, mais je ne peux pas. C'est ma souffrance sur un tel tempo, ne pas tasser mon cœur dans un tête de bœuf.
Et c'était le rappeur Lee qui sera donc sur le char de la marche des fiertés de Rouen ce samedi 20 juin, départ de la marche 14h, square Verdrel. Voilà, vous êtes dans la matinale de Principe Actif et HDR. Et donc avant de parler basket avec Naïm et Lorenzo, eh bien on va lier un peu nos deux sujets de ce matin. On va parler sport et personne LGBTQIA+, avec Michel qui nous a préparé une chouette chronique. Et c'est parti, on a hâte d'entendre ça.
Alors chouette, je vais essayer vraiment d'être chouette. Alors moi je vais vous parler boxe à travers principalement Oscar Bonifacino. C'est un boxeur professionnel qui a fait son coming out là il y a juste quelques mois. Mais est-ce que ça vous dit aussi qu'on remonte un petit peu le temps? Est-ce que y a-t-il quelqu'un dans le studio?
Oui, vas-y, avec plaisir, Michel.
On va remonter un petit peu le temps. Alors, je vais vous parler d'Alfonso Teofilo Brown, mieux connu sous le nom de Panama Al Brown, boxeur panaméen né le 5 juillet 1902 à Colonne et mort de la tuberculose dans une grande misère. Ça, c'était le 11 avril 1951 à Staten Island, à New York précisément. Alors, c'est le premier champion du monde de boxe anglaise d'origine hispanique. Et Panama Al Brown est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs boxeurs ayant évolué dans sa catégorie des poids coqs. Poids coqs, qui connaît le poids des poids coqs?
Là, j'avoue, je connais pas. Je connais poids léger, poids moyen, poids lourd, mais poids coq.
Alors, ça correspond aux 52-53 kilos.
Ok.
Alors, pour revenir à Panama Al Brown, en 1922, il devient donc le meilleur boxeur de sa catégorie dans tous les États-Unis. À cette époque, l'épicentre de la boxe anglaise aux USA est donc New York. Mais bloqué par l'ostracisme des organisateurs et dirigeants américains qui n'envisagent pas qu'un boxeur noir puisse être champion. Alors l'athlète panaméen, il va quitter Harlem pour partir en Europe, et ça c'est en 1926. Panama Albron est une figure oubliée du Paris des années 1930 qui a subi les pires attaques parce qu'il était noir et homosexuel. Ses combats sont encore d'actualité et il est bon d'en parler. Il est rapidement tombé dans l'oubli et donc une biographie a été créée à partir des éléments que nous avons pu trouver. Il y a des éléments restés dans l'ombre comme sa relation amoureuse avec le fameux poète Jean Cocteau. Ces mots que je viens de citer sont ceux d'Alex Inker, auteur de la magnifique BD Panama Albron, l'énigme de la force, aux éditions Sarbacane, paru en 2017. Et ça, c'est un roman graphique que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site de la chaîne Arte. Panama Albron, le boxeur aux 160 combats professionnels avec 129 victoires à son palmarès.
Ce qui n'est pas mal comme score.
Pas mal, et attends, c'est pas fini. 59 avant la limite. Et maintenant, je vais vous parler de mon chouchou. Alors mon chouchou, c'est le boxeur le plus prometteur dans sa catégorie du moment, et pour moi c'est sans aucun doute l'Uruguayen Oscar Bonifacino. Il a tout pour devenir un grand boxeur. Son style, sa puissance, sa régularité, son âge et sa douleur. Sa douleur d'avoir été méprisé, battu, rejeté simplement parce qu'Oscar est gay. Gravement maltraité par son père à cause de son homosexualité, il va d'abord tenter de trouver une échappatoire vers le football. Et qu'est-ce qu'il faisait au foot à votre avis ? La rage est si forte. Hein, Naïm, qu'est-ce qu'on
attaquant
fait? Oui, il était attaquant, mais parfois, alors les plaies sont si fortes à l'intérieur de son âme, à vif et qu'Oscar, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se bat sur la pelouse avec les joueurs adverses et insulte les arbitres, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et il suivra aussi les mauvais anges en dealant de la drogue. Et il en sera même blessé par balle au pied. Bah alors après cet épisode, il se sent bon à rien et comme beaucoup de personnes trans ou LGBT, il pense à une chose, au suicide, malheureusement. C'est pas ce qu'il va faire, parce que sa tante va lui montrer un autre chemin, celui d'une salle de boxe, celle d'un Barrios de Montevideo. Alors Barrios, pour nos auditeurs, c'est ce qu'on appelle un petit peu les banlieues des villes en Amérique du Sud. Donc celle d'un Barrios de Montevideo où se trouve une salle de boxe. Alors imaginez, des sacs de frappe rafistolés, un coin où l'eau chaude n'est pas toujours au rendez-vous. Eh ben on se moque d'Oscar, son propre père en tête. Lui, un maricone, un PD, à la boxe. En plus, l'entraîneur est une femme. La boxe n'est pas pour les tapioles, ni une histoire de femme. Ça, ce sont les mots de son père. La boxe, alors Oscar la découvre à 17 ans et elle devient son exutoire, un moyen de canaliser sa colère et de se reconstruire. Son coach est Elisabeth Cabrera, une ancienne boxeuse professionnelle. Et dès que je lui ai confié que j'étais gay, j'ai senti un poids disparaître, raconte Oscar. Aujourd'hui, il est âgé de 21 ans, l'âge idéal pour passer en professionnel et gagner ses combats. Sa boxe, elle est précise. La quasi-totalité de ses coups atteignent le visage, la mâchoire, les côtes, l'estomac, ou mieux, le foie de ses adversaires. Il esquive les coups dans des rotations du corps aussi rapides et gracieuses qu'un danseur. Un peu à la Sugar Ray Leonard, pour ceux qui connaissent. Il porte fièrement le Rainbow Flag, c'est-à-dire le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté, sur ses shorts lors de ses combats. Droitier, il double ses directs du gauche pour prendre la bonne distance, puis enchaîne en crochet, ponctuant en uppercut, en prenant bien appui sur ses jambes. Geste parfait. Alors, il évolue chez les poids-plumes. Les poids-plumes, c'est donc combien? Attention, vous avez 3 secondes pour me répondre.
50, 55 kilos?
53, 57. Alors, vous aviez presque bon. Alors, lors de son combat face à l'Argentin Carlos Alarson, le CETA, c'était le 24 janvier dernier. Un combat prévu en 6 rounds de 3 minutes chacun. Oscar perd les deux premiers. Et il vacille même à la toute fin du deuxième où il sera compté. Alarson veut garder sa ceinture. Oscar ne boxe pas face à un adversaire facile et il va devoir aller la chercher, sa victoire. C'est à ce moment-là que tout revient. Il sait, Oscar, qu'on ne doit rien lâcher. Et dès le début du troisième round, Oscar avance. C'est une pluie de directs, uppercuts et crochets qui l'abat sur son adversaire. Oscar accélère, garde son sang-froid, reste précis, observateur. Il peut compter sur son excellente condition physique. La condition physique, la clé pour gagner bien des combats en boxe. 12 secondes avant la fin de ce round, sur un crochet droit près du corps, Oscar envoie au tapis son opposant. Il va continuer à imposer ce même rythme dès la reprise suivante. Alarson est débordé, acculé dans les cordes, sous un déluge de coups de poing. Il met à nouveau un genou à terre dès le début du round. dans ses sursauts. Il essaie de gagner des secondes, des répits, en enlaçant Oscar, c'est-à-dire reposant sa tête sur l'épaule de son adversaire. Vous connaissez ça, le corps à corps, le fameux corps à corps boxe. Hein, oh oui, hein, pour se reposer. Bah oui, histoire de prendre quelques secondes de repos. Mais c'est inefficace. Coincé dans un coin du ring, Alarson prend trop de coups dans la tête. Oscar ne lâche pas. Alarson ne parvient plus à monter sa garde. Il reste 18 secondes avant la fin de ce quatrième round. Mais l'arbitre arrête le combat sur un crochet au foie. Chaos technique. Je ne cherche pas seulement la victoire sur le ring, je veux ouvrir des voies, construire des chemins où personne n'aura à se cacher dans le sport à cause de son orientation sexuelle. Mon combat est pour la liberté d'être authentique, briser les préjugés, démontrer que la force est née du cœur. Que mon histoire inspire ceux qui rêvent de vivre sans crainte et ceux qui recherchent encore leur voie, a déclaré Oscar Bonifacino en interview. On ne joue jamais à la boxe. La boxe, c'est bien autre chose qu'un sport. Elle se suffit à elle-même, n'a besoin d'aucune justification pour exister. Elle est la boxe, point. Elle t'accueille tel que tu es, sans jugement, mais ne te donnera aucun traitement de faveur. Tu dois l'accepter avant de t'y engager. Les sociétés, particulièrement les patriarcales, ont la manie de classifier les personnes en deux genres uniques. L'histoire d'Oscar... Et pour bien d'autres gays, lesbiennes, transgenres, non-binaires, bisexuels, mais aussi, je rajouterais, hétérosexuels, montre que pour vivre et non pas survivre, il est essentiel d'être soi-même. Il existe au moins 20 000 espèces d'abeilles différentes dans le monde. Nos sociétés devraient bien s'en inspirer. À très bientôt.
Merci Michel. C'est du coup une chronique géniale. En tout cas, on a pu comprendre aussi que bah voilà, le sport, qu'on soit gay, lesbienne, hétéro ou autre, bah on peut le pratiquer quand même en fait. Il faut oser. Et pour cette transition non associée mais tout tournant aussi autour du sport, JC vous a souvent parlé pendant sa chronique du top HDR sportif de HDR basket. Et depuis quelques jours, la radio HDR a accueilli un stagiaire en seconde venant d'un lycée de Rouen qui fait partie de ce club de basket. Donc nous allons pouvoir discuter avec lui, découvrir un peu ses passions et pourquoi il a décidé de s'engager dans le basket. Bonjour Lorenzo.
Bonjour.
Alors voilà, tu viens des Hauts-de-Rouen, tu es lycéen, tu fais ton stage de seconde, bah, comme tous les lycéens. Et là, l'idée, c'était qu'on te présente un peu ce matin, mais surtout qu'on présente le club HDR Basket.
C'est ça.
Du coup, peux-tu nous en dire quelques mots?
Bah alors, le club de basket, c'est un club qui date déjà de 20 ans, 30 ans, je crois.
Attends,
parce qu'on t'entend. Voilà, petit problème technique.
Petit problème technique.
Allez, vas-y.
Okay. Voilà.
Le club de basket, ça fait déjà maintenant quelques années qu'il y est. Il y a la coach Yas qui a repris il y a 3 ans, suite à des problèmes financiers, tout ça. Et là, du coup, on est en train de remonter tout ça. Il y a des choses qui sont faites et tout. Le but, c'est de faire remonter le club. On a des nouveaux affaires et tout qui arrivent, et voilà.
Et dans l'envie de commencer, comment tu es venu l'idée de commencer dans le monde du basket? Parce que la plupart des jeunes de ton âge aiment bien plutôt le foot.
Mon père, il en pratiquait quand il était au Congo. Et des fois, je regardais des matchs, tout ça. Et puis, un jour, je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Je me suis lancé, et depuis ce jour-là, j'ai kiffé. Ça fait, je crois, j'avais 8 ans, 9 ans. Et j'ai toujours eu ce plaisir à jouer, à comprendre comment il fallait faire. Et en fait, en grandissant et en regardant des vidéos, tout ça, je me suis rendu compte que c'est pas qu'un simple sport. Il y a aussi des maths, tout ça. Et j'aime bien réfléchir et tout. Comment faire pour gagner contre des joueurs plus forts, tout ça, et voilà.
As-tu déjà joué justement des matchs officiels dans des compétitions?
Oui, des tournois, des détections aussi que j'ai fait. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, y a beaucoup de choses à régler. C'est-à-dire comme la pression, le public qui te regarde, tes parents, l'envie de réussir. Et c'est tout ça qui me fait que aujourd'hui j'aime encore ce sport-là. Parce que derrière ça, il se cache quelque chose. Et voilà.
Et du coup, la patience, elle vient depuis longtemps, mais le tir à trois points, il est facile ou pas?
Ah non, c'est du travail. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Pour être un shooter à trois points, déjà, faut s'entraîner à deux points. C'est comme tout, c'est que du travail. Et si tu veux être un bon shooter, faut tirer. C'est comme Stéphane Curé, il a mangé des shoots. Il a fait plus de 2000 tirs, je crois. Et voilà. Non, c'est pas facile.
Et on va continuer un peu à discuter avec toi, mais Michel, il a parlé de boxe. Mm-hmm. Nous, on parle de basket. Mm-hmm. Et le basket, c'est souvent un sport collectif.
Ouais.
Ça veut dire qu'une personne qui a un peu le côté de jouer perso ne peut pas réussir.
Bah oui, du coup, parce que ça peut freiner ton équipe. Surtout que c'est un jeu d'équipe, c'est-à-dire qu'on est 5. Donc si pendant un match tu joues un peu tout seul, ça va être compliqué. Quoi, 4 contre 5, ça va être compliqué. Donc oui, il faut avoir cet esprit-là aussi d'équipe et pas penser qu'à soi. Ouais.
Et comment ça se passe les entraînements justement au club HDRDO? C'est-à-dire que on sait que le club a eu des difficultés, mais qu'il est quand même là, toujours présent, qu'il y a une palette différente de personnes. Raconte-nous un peu la vie du club.
Déjà, pour remercier la coach pour tout ce qu'elle fait pour nous, elle est là du lundi au dimanche. Et des fois c'est compliqué avec ses enfants, tout ça. Et la vie au club, ce que je remarque comparé à d'autres clubs, c'est que nous, on a cet esprit famille. C'est-à-dire que t'es bienvenu, tout ça. Et il y a les entraînements. Par exemple, des fois, on peut s'entraîner avec les seniors. Quand on a des difficultés, on peut en parler à la coach. Elle va essayer de dire aux médias tout ça, trouver des solutions. Comme vous avez pu le voir, on fait des activités. Comme là, il y a eu ce week-end-là une kermesse entre guillemets pour les petits.
Oui, c'est bien. Vas-y, parle-nous.
Ce qui consistait à il y avait plein de jeux, morpion, puissance 4, tout ça. Et à la fin, tu remportais des points. Et il y avait plusieurs sortes de cadeaux, pistolet à eau, tout ça. Et le meilleur, il remportait le meilleur cadeau. Et voilà.
Et ben voilà. En tout cas, on va rappeler comment on peut s'inscrire, comment on peut venir découvrir.
Pour s'inscrire, faut venir directement au club, voir la coach.
Il est où? Tu sais, moi je suis en B aussi, hein, je pose des questions très simples.
Au de Rouen, si vous ne trouvez pas, vous mettez Gymnase Villon. De toute façon, vous allez trouver. Et pour vous inscrire, il faut venir directement au club. Vous contactez la coach. Elle fera passer des entraînements, elle vous dira tout. Il y aura des papiers à signer et après, voilà.
En tout cas, les informations sont à retrouver aussi sur Internet, hein, HDR Basket, c'est facile, ou leurs réseaux sociaux qui sont en train d'être rénovés, donc n'hésitez pas. Et comme a dit Lorenzo, Gymnase Villon, donc je vais faire aussi ce que je fais habituellement chaque mercredi matin, c'est-à-dire que vous prenez le T2 et vous arrêtez à l'arrêt Maison de l'Emploi. Ça sera même pas 5 minutes.
On sent le côté hyper local. Ouais. Hein. Là, on vous avait toutes les infos. Franchement, vous ne pouvez pas vous gourer. Hein.
Et on peut souligner quelque chose. Tu as bien dit que c'est une coach qui vous entraîne. C'est donc une femme qui vous... Et vous gagnez des cons et vous gagnez vos combats. Enfin, vos combats. Voilà, je suis encore dans la boxe. Mais vous gagnez vos matchs.
Ouais.
Donc, ça, donc une femme qui entraîne des garçons, vous gagnez. Ce n'est pas un problème, on est d'accord. Ça, je voulais vraiment le souligner.
Oui, mais merci beaucoup d'avoir souligné du coup ce petit détail qui n'en est pas un. Et du coup, on va pouvoir donc on a un petit switch en plateau et donc on va pouvoir retrouver l'ami Jean-Charles, un autre sportif aguerri autour de ce plateau pour son moment sport. Salut Jean-Charles.
Bonjour So, comment vas-tu?
Eh ben ça va très bien, écoute hein. Et toi?
Ça va, très mouvementé avec le match d'hier soir.
J'ai cru comprendre, ouais.
Alors aujourd'hui, on va parler du club Roi Saint-Pin FC. Je reçois Bamou.
Diakité,
excuse-moi.
C'est le matin, on t'en veut pas.
Le coordinateur du club. Nous allons parler d'un événement qui se passe ce week-end. Explique-nous un peu plus, Bamou.
Alors cet événement, c'est un tournoi. Un tournoi qui aura lieu le 20 et 21 en juin.
Oui, alors samedi et dimanche.
C'est la Rouen Cup. C'est la 4e édition. Donc voilà, moi je prends le temps en marche parce que je suis arrivé au niveau du, enfin je suis arrivé au mois de janvier, donc j'ai pas été vraiment dans la boucle au niveau de l'organisation. Là, je prends le train en marche, je vois un peu comment ça se déroule. Donc c'est un gros tournoi, un gros événement pour le club qui fait partie de des gros événements club. On a la chance d'accueillir le Paris Saint-Germain, le Racing Club de Strasbourg. On a l'académie cette année, Mohamed VI qui vient du Maroc, donc ça c'est une grande nouveauté, on en est très fiers. Et après on a des clubs d'un peu partout, on a QRM qui est voisin à côté, donc voilà pour les grosses affiches quoi,
gros clubs. Du coup ça passe sur deux jours, ça sera sur le au club, ça se passe ou il y a
oui,
un...
sur le... Non, ce sera au club.
Ça sera au club,
ouais,
d'accord.
Ce sera au club.
Et tout le monde peut participer à voir, bon, pas à jouer, mais surtout à voir. Il y aura des activités pour les enfants ou...
Oui, ce sera un moment convivial. Les jeunes du club sont les bienvenus, etc. Donc, ce sera une grande fête. On espère qu'il y aura pas mal de monde aussi.
Oui, et ouais. En plus, je pense qu'il va faire beau si le temps
j'espère.
Change pas.
Je sais pas, honnêtement, j'ai pas regardé. Je sais pas du tout. Tu m'apprends quelque chose, mais non, j'espère qu'il fera beau. Et puis, dans tous les cas, ce sera une grande fête. On va s'adapter, même s'il y a un peu de pluie.
Oui.
Mais j'espère que non.
Et du coup, le vainqueur, qu'est-ce qu'il gagne à la fin? Ou c'est juste pour jouer entre clubs, fin de saison, on se détend et on apprend les niveaux un peu plus supérieurs ou un peu moins
Je pense que c'est plus une histoire de fierté. En soi, le trophée, ouais. C'est pas non plus le trophée de manière matérielle. Je pense que c'est pas ce qui motive, ce qui motive les jeunes et les clubs qui viennent. C'est surtout la compétitivité du tournoi, le fait qu'on puisse rencontrer des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui viennent de l'extérieur, d'autres régions ou d'autres pays, comme l'Académie Mohamed VI. Oui. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qui motive nos équipes à participer au tournoi. Je sais qu'il y a eu des bons échos sur les précédentes éditions. Comme je vous ai dit, moi, je viens d'arriver au club, donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est
passé.
J'ai pris le train en marche, c'est ça. Mais en tous les cas, c'est beaucoup de travail. Donc là, sur la dernière semaine, tu te doutes bien que ça a pulsé. On est tous mobilisés pour pouvoir faire en sorte que le tournoi soit une belle réussite. Donc voilà.
D'accord. Voilà, du coup, le tournoi, ça commence à quelle heure? Alors, ça me dit.
Pour nous, ça commence tôt parce qu'il faut tout mettre en place. Au niveau des équipes, honnêtement, je n'ai pas exactement les horaires, mais je pense que aux alentours de 9h, je pense, 9h, 10h, le début des matchs. J'avoue que j'ai pas la feuille de route de toutes les équipes, donc je me souviens plus. Mais de tête, c'est à peu près dans ces eaux-là.
Oui, après, comme les préparations, il y a toujours des petits, des petits dérapages. Et pour le dimanche, la fin, c'est prévu à peu près environ.
La finale, elle sera environ vers 16h, il me semble.
16h, d'accord. Oui. Ok, bon, on va essayer de supporter.
Il faut, on a besoin de monde. On a besoin de monde.
Et aussi, le club de Rouen-Sapin, il participe. Il y a plusieurs catégories ou il n'y a que une catégorie
des... Non, alors je ne l'ai pas précisé au départ. C'est un tournoi U13. Donc, c'est la génération 2013. Les joueurs sont nés en 2013 ou peut-être un peu moins possible, mais en tout cas pas plus. Donc, c'est la catégorie U13, simplement U13.
Ah, d'accord. Voilà. C'est des jeunes.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Je te remercie, Bamou.
Il n'y a pas de souci.
Bon courage pour cet événement à venir ce week-end.
Merci et merci de m'avoir invité.
Merci JC et merci à notre invité pour nous avoir parlé de ce tournoi qui a l'air vraiment sympathique, ça a l'air super bon enfant, franchement ça donne envie de venir. Et puis on va retrouver Flore pour un autre sujet là aussi qui donne envie de venir, on va parler du Refugee Food Festival, voilà, on vous laisse écouter Flore au micro.
J'ai demandé à Rami s'il aime la cuisine française et ce qu'il a appris à cuisiner. J'ai appris pour, par exemple, quelques recettes. J'aime bien. Après, j'essayais tout préparer à la maison pour moi. C'est pour, par exemple, quiche Lorraine. Il y a une recette avec beaucoup de fromage.
Attention, c'est bien gentil de discuter. Mais il n'y a pas quelque chose sur le feu?
Le bouillon avec les pois chiches,
oui.
Il est fini.
Oui.
Je vais éteindre le feu et je reviens.
D'accord, c'est vous.
Merci. Ça, c'est bien.
Mais ouais. Elisa et Rami élaborent tout un menu complet iranien composé d'une entrée, de deux plats dont un végétarien, du dessert et même d'une boisson étonnante dont vous me direz des nouvelles. Et on a demandé à Rami comment s'appelle l'entrée en perse.
Ça s'appelle Kashkebademjoun, c'est aubergine en France. Aubergine avec produits traditionnels en Iran, avec yaourt fermenté.
Comment s'appelle le plat?
Il y a deux plats, un pour végétariens. Il s'appelle Osherechte, pois chiches, haricots rouges, beaucoup les herbes, avec un modèle iranien. Autre plat, c'est Fesenjoun, ça s'appelle Fesenjoun. Les ingrédients, c'est noix, pâte, granate.
Et le dessert?
Cholezar, c'est comme un pudding, l'eau avec safran. Cardamone, avec amande aussi.
Et pour la chef rouennaise, la cuisine iranienne est une première.
J'ai déjà goûté afghan, libanais, mais jamais iranienne. Et là, j'ai été très surprise, surtout par le dessert, parce que j'ai eu la chance de goûter en avance. Mais le dessert, c'est une sorte de riz au lait, et nous, on a un riz au lait très lourd. Et en fait, là, c'est hyper léger, avec de l'eau de rose aussi.
Oui.
Dedans. Et en fait, moi, en plus de base, je suis pas très riolée. Et là, c'est super léger avec le safran. J'avais goûté en salé, jamais en dessert. Donc, je découvre beaucoup de choses, des goûts que je connais, mais utilisés d'une façon différente. La grenade dans le ragoût de poulet, par exemple. Pour moi, la grenade, c'est à la limite sur une salade ou en dessert, mais jamais ou boisson. Mais comme ça, en ragoût de poulet, non, jamais. C'est des goûts très subtils, mais tout bien équilibré. J'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un qui avait fait de la cuisine avant, donc c'est bien maîtrisé.
Il ne faut pas oublier l'ADN du Refugee Food, dont l'objectif initial est l'insertion professionnelle. Pour Rami d'ailleurs, c'est l'occasion d'une première expérience professionnelle en France et une rencontre humaine plutôt réussie. La recette a pris, la magie a eu lieu, le testing s'est bien passé pour nos deux chefs cuisiniers.
On n'a pas de... ça va, on ne s'est pas battu.
Elle est très gentille.
Il a pas le choix, je suis à côté. Aujourd'hui, c'est moi
elle
le commis.
Très gentille.
Et c'est lui le chef. C'est moi qui lui dis qu'est-ce que je dois faire. Et c'est Ramin qui me dit, tu peux couper ça. Je laisse la place du chef à Ramin et moi, je suis le commis. Pour moi, la cuisine, on m'a toujours appris, c'est du partage. Donc là, c'est juste l'image de ce que j'ai en tête depuis toujours. Voilà, j'apprends par la cuisine, même si on... La communication n'est pas toujours facile, c'est facile de communiquer par la cuisine et se faire découvrir aux gens et du coup c'est top quoi.
Rendez-vous exceptionnellement le vendredi 19 juin dès 19h, 3 rue Damiette à Rouen, chez Tranché, pour un service spécial et unique. Le chef Rami vous propose un menu 100% iranien sous la bienveillance d'Elisa, chef du restaurant.
Et donc c'était Flore pour ce Refugee Food Festival, franchement un moment sympathique et puis l'insertion autour de l'assiette c'est toujours chouette. Ce matin on aura parlé de pas mal de choses et d'ailleurs je pense que l'assiette c'est important aussi pour les sportifs qui étaient autour de la table. Voilà, on était HDR, le mix des cultures, ce matin c'était le cas. Donc rendez-vous ce samedi 20 juin, Square Verdrel en centre-ville de Rouen pour la Marche des Fiertés. Tout le monde est bienvenu, hein, même si vous n'êtes pas queer, hein, les alliés sont bienvenus et on espère.
C'est exactement ce que j'allais dire sur les alliés, n'hésitez pas à y aller parce que la marche des fiertés n'est pas réservée qu'au monde LGBT. Surtout, allez-y, que vous soyez en famille, entre amis, c'est un moment sympa et c'est surtout une ouverture d'esprit, donc n'hésitez pas à vous y rendre.
On aura pas mal d'assos en plus, voilà, un drag show, des concerts, donc c'est l'occasion de mettre un pied dans cette culture-là, de s'informer. Et puis donc, voilà, des événements sportifs aussi, aller soutenir les jeunes, c'est important sur les Hauts-de-Rouen. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes amateur de basket, vous pourrez aussi eh bien vous faire un peu kiffer si vous décidez d'aller voir ce qui se fait au niveau du club. Rendez-vous demain pour la matinale de HDR et Principe Actif. Le pire reste à venir. Et puis quant à nous, on va vous souhaiter une très très belle matinée sur HDR. N'hésitez pas à retrouver tous les invités et les clubs de sport dont on a parlé sur leurs réseaux sociaux. C'est ça aussi qui est sympathique aujourd'hui, c'est qu'on peut pas dire qu'on n'avait pas les infos. Allez, bonne journée à tous.
Ciao.
Ciao, au revoir.
9h. Merci d'écouter RFI, les 9h à Paris, 7h en temps universel.